RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Vous l'entendez, on ne s'ennuie pas vraiment côté politique depuis le 9 juin. On ne va pas s'arrêter jusqu'à 11h sur les chamailleries à droite comme à gauche, mais nul doute que en tout cas cette période vous secoue. En famille, où les débats doivent être parfois brûlants, en famille d'ailleurs, ou avec ses amis, voire ses collègues. On va se poser deux questions ce matin. Déjà, est-ce que c'est une bonne idée de parler politique avec ses proches? Deuxième question, comment faire pour vraiment parler politique en famille ou avec ses proches? On va en discuter avec notre invité. Vous êtes bienvenus, vous êtes les bienvenus en direct avec vos témoignages. Emmenez-nous dans les coulisses de vos repas et de vos échanges en famille ou au boulot. Est-ce qu'il est simple de parler politique, notamment en ce moment? Ou alors ça crée des véritables tensions, voire des pugilats internes. Racontez-nous peut-être vos petites techniques pour que tout se passe bien. 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis, on parlera du patrimoine en France avec notre chroniqueuse Philomène Villard. Elle nous évoquera un pan du patrimoine dont on parle rarement, celui du patrimoine écrit. Mais en attendant, on retrouve notre unique invité. C'est rare, mais c'est pas grave, on est très heureux. Rémi Oudguéry, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Dont je pense donc j'agis, vous êtes sociologue, vous êtes aussi le directeur général de Sociovision. Sociovision, ça fait partie du groupe IFOP, Rémi.
Oui, tout à fait. C'est une, on est notamment spécialisé dans le temps long. On cherche à comprendre les tendances, comment elles s'inscrivent dans le temps, et en particulier, mais pas seulement, les tendances politiques.
On est dans une période particulière, d'après vous, Rémi Oudguéry, assez dingue, si je peux utiliser cette expression.
Oui, oui, à l'évidence. Hein, je pense que depuis quelques semaines maintenant, beaucoup de personnes vivent sous le choc de la dissolution. Mais j'ai envie de dire que l'événement en tant que tel est surprenant, mais il reflète une polarisation, une fragmentation de la société qui est loin d'être nouvelle en fait. Hein. C'est quelque chose qui a germé, qui s'est développé. Nous, dans les enquêtes qu'on fait maintenant depuis une dizaine d'années, on voyait très bien que dans un pays comme la France, mais on trouve exactement la même tendance ailleurs en Europe, les gens ont de plus en plus de mal à se parler, en particulier sur les sujets relatifs à la politique. Il y a de plus en plus de radicalisation des positions, que ce soit celle des partis, mais également dans la vie quotidienne. Et je voudrais rappeler ce fait quand même qui est absolument frappant quand on regarde les résultats des élections européennes, et qui confirme ce qu'on voyait très bien, c'est qu'on a clairement la France des villes, la France des champs, c'est-à-dire que dans les villes, il y a un certain nombre, c'est plutôt la gauche ou le parti présidentiel qui sont arrivés en tête, alors que dans un très grand nombre de territoires, les villes moyennes, les petites villes, etc., les bourgs, on a voté Rassemblement National. Il y a une coupure de la société qui est extrêmement forte. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'exacerbation de cette fracture. Les choix désormais qui sont devant nous.
Donc une fragmentation de la société qui, d'après vous, n'est pas nouvelle, mais totalement exacerbée par cette situation politique, notamment depuis le 9 juin, où c'était assez inattendu, cette dissolution de l'Assemblée nationale.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est inattendu, c'est le fait que désormais des positions extrêmement polarisantes s'offrent à nous sans qu'on ait vraiment eu le temps de se préparer à ça, si vous voulez. Donc, et on voit bien qu'aujourd'hui, pour la première fois, notamment le bloc formé par ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui, il est susceptible d'arriver aux responsabilités. Ça, c'est un phénomène qui, pendant très longtemps, a été diabolisé dans notre pays, a créé une polarisation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent qu'il y a un choix important. Quand on est partisan de ce bloc-là, on se dit qu'il y a un choix décisif pour nous, enfin, de se faire entendre. Et puis quand on est opposé, quand on a grandi dans l'idée que c'était un pôle repoussoir, eh bien il y a aussi la même tension qui se crée, il y a un choix décisif. Donc on a l'impression qu'on est face à un choix totalement décisif qui peut nous faire basculer d'un côté ou de l'autre. En tout cas, chacun a conscience depuis une dizaine de jours qu'on vit un moment historique.
Donc on a peut-être un moment de bascule également, avec un risque, et vous l'avez très bien dit, Rémi Houdguiri, c'est de créer des échanges totalement, totalement, comment dire, fous, entre collègues, entre amis, en famille également. Ça peut virer au champ de bataille.
Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, il faut rappeler que, alors nous, on mesure hein, dans nos enquêtes régulièrement la proportion à parler politique entre amis, famille, etc. Quand on regarde sur les 20 dernières années, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça avait plutôt tendance à décliner. C'est-à-dire, il y avait une dépolitisation de la société qui se traduisait notamment par la montée de l'abstention à la plupart des élections. Et donc, mécaniquement, les gens s'intéressaient moins à la politique. Il n'y avait guère qu'en période d'élection, notamment d'élection présidentielle, qu'on voyait nos chiffres remonter. Mais la grande tendance, c'était que la politique, au fond, était de moins en moins le sujet dont on avait envie de parler. Et bien sûr, c'est le sujet qui est le plus conflictuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la polarisation des positions sur l'échiquier politique, eh bien, parler politique à la maison, parler politique entre amis ou entre collègues, c'est prendre le risque d'une conversation qui très vite peut tourner sinon au pugilat, en tout cas, à l'énervement, à l'évidence, parce que chacun campe sur ses positions, et c'est des positions totalement irréconciliables.
Mais est-ce que c'est pas bon signe, quand même, d'en parler en famille notamment? Est-ce que le risque de dire ce qu'on dit ce matin, c'est d'avoir peur d'exprimer son opinion?
Alors, moi, j'aurais deux réponses à votre question. Je pense que vous avez raison. Quelque part, le fait qu'on parle politique, on va dire que c'est une façon d'assumer son rôle de citoyen. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt positif qu'on parle politique. Après, le risque, si vous voulez, dans la mesure où on est plutôt dans un moment de, vous l'avez rappelé, de bascule et de précipitation aussi, c'est que on crée des conflits qui soient surtout dans les familles, je pense, ou entre amis, qui soient définitifs et qui peuvent créer des querelles qui longues dans le temps, si vous voulez. Donc moi je sais pas, ça dépend bien sûr de chacun. Moi je peux pas donner de conseils, mais
oui, donc
en tout cas, placer ces questions-là au cœur des discussions. Évidemment, c'est faire acte de citoyenneté, c'est faire réintroduire enfin le débat politique à l'intérieur des familles, qui avait plutôt tendance à décliner en moyenne, mais c'est courir le risque de créer des conflits, d'autant plus forts qu'aujourd'hui on vit sous le régime de l'émotion. Donc, vous voyez ce que je veux dire, le danger, c'est de transformer en des discussions qui pourraient être rationnelles, l'occasion qu'on a enfin de s'écouter les uns les autres, en une bataille émotionnelle qui tournera mal, en fait.
Alors, ce qui est assez intéressant à observer, c'est que, justement, on entrait dans une période assez particulière, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Donc, on va dire un sujet plutôt léger, Rémi Houdguiri, et je passe les polémiques autour de cet événement. On n'avait pas du tout imaginé une telle crise politique en France. C'est là où, finalement, ça crée d'autant plus de tensions.
Oui, je pense. Vous oubliez l'euro qui vient de commencer.
Ah oui.
Et puis l'été, alors qui tarde à venir hein, dans une partie de la France, mais l'été c'est les barbecues, c'est la détente, c'est l'arrivée des vacances, etc. Donc c'est vrai que il faut pas oublier que depuis plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, on vit en France sous une inflation absolument inédite depuis les années 70. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'inflation depuis le premier choc pétrolier de 73. À un tel niveau, sur une telle durée et sur des postes absolument vitaux que sont l'alimentation, se nourrir, le logement, hein, se loger, le chauffage notamment, l'électricité, le gaz, et le déplacement, se déplacer, c'est-à-dire la voiture, le carburant. Et donc, il y a, au terme de ces 2 ans et demi d'inflation, il y a une sorte de fatigue qui s'est installée, parce que les gens sont obligés, pour certains, de vivre à l'euro près, de compter, de faire des arbitrages, des sacrifices, etc. Arrivé l'été, avec plutôt le sentiment que dans l'alimentation en particulier, les prix commençaient à se tasser, voire baisser dans un certain nombre de catégories de produits. C'était pas spectaculaire, mais c'était là. Donc vous voyez ce que je veux dire. Enfin, et puis effectivement, la perspective des Jeux Olympiques, et là, badaboum, tout ça s'écroule, et on se retrouve devant le choix cornélien de devoir décider de l'avenir du pays comme ça en très peu de temps. Je pense que ça déstabilise énormément de gens. Je pense qu'encore une fois, ça choque un nombre important de gens. De sorte que, à votre question, est-ce qu'il faut ou pas parler politique, je rajouterais que peut-être que quand vous êtes vraiment en état de stupeur, vous vous posez des questions, vous avez du mal à dormir parce que c'est compliqué, peut-être que là, ça vaut la peine de parler politique, alors pas avec vos ennemis, mais plutôt avec vos amis, ceux dont vous savez qu'ils partagent peu ou prou votre sensibilité, pour vous appuyer, pour être entouré, pour trouver des conseils, voilà, c'est important.
Mathieu nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes à Rennes, on vous écoute.
Oui, en fait, mes amis et puis ma famille sont dans les émotions, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont radicalisés à cause du manque d'informations des médias, parce qu'en fait, la guerre en Ukraine et en Russie est censurée. Et en fait, on peut pas parler librement de la guerre en Ukraine en Russie sans se faire traiter d'anti-ukrainien.
Où ça, Mathieu, pardon, en France ou justement
en France?
Ah oui, d'accord, oui.
Parce que en fait, Google censure les positions russes.
Donc ça crée des tensions avec vos amis?
Avec ma famille, oui, parce que eux, ils sont contre Poutine, mais Poutine, il est juste président de la Russie, il représente son peuple, il est élu par son peuple. Donc, faire croire que c'est une dictature, c'est faux.
Merci beaucoup, Mathieu, pour votre appel ce matin dans Je pense, donc j'agis. Rémi Oudguéry, sur la Russie, justement, on a reçu le témoignage de Teresa qui nous dit « Moi, j'ai vécu en Russie et personne n'osait rien dire, et notamment en famille. C'était assez horrible. Quand je suis arrivé en France, ça a totalement changé. » Alors, on va pas faire un débat sur la Russie et l'Ukraine, hein, Rémi Oudguéry, bien sûr, c'est pas du tout l'objectif, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas cette chance, et je mets ce mot entre guillemets, en France, de pouvoir quand même s'exprimer et de pouvoir se dire les choses en famille, en évitant que ça pète, bien sûr, mais quand même, on a cette chance.
Oui, bien sûr, je pense que c'est une chance que certains peut-être ne réalisent pas toujours, mais le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer ses idées, évidemment, c'est un luxe qui n'est pas partagé partout sur la planète. Donc, encore une fois, je pense que le côté positif de la situation aujourd'hui, et je dirais à court moyen terme, si vous voulez, quel que soit d'ailleurs le résultat des élections, en réalité, c'est que ça va peut-être réactiver dans notre pays l'intérêt pour la politique, justement. Peut-être que là, une génération est en train de grandir avec dans cette société très polarisée que l'on a décrite tout à l'heure, et peut-être que ça sera l'opportunité dans les années qui viennent d'essayer de renouer des fils. Voilà, parce que moi, je pense assez frappant dans la période actuelle, c'est à quel point on a le sentiment que il n'y a pas de socle que nous partageons en commun. C'est comme s'il y avait deux mondes qui vivaient en parallèle, alors et qui réalisent que c'est l'un ou l'autre, si vous voulez, mais une démocratie, c'est l'un et l'autre, avec à un moment donné l'un qui prend le dessus sur l'autre, qui essaye des choses, etc. Et voilà, je pense que si on veut rester positif dans la période actuelle, je dirais que le point le plus positif, c'est qu'il y a manifestement une recomposition des blocs qui est en train de se faire.
Oui.
Et chacun est en train de prendre conscience que la politique revient au cœur de la vie de française, en fait.
Oui. On va écouter de la musique tout de suite, Rémi Oudguéry. Ça va laisser le temps à nos auditrices et nos auditeurs de nous appeler pour nous parler de notre sujet ce matin. Deux questions. Est-ce que c'est une bonne idée, d'après vous, de parler politique avec ses amis, sa famille ou ses proches. Et puis, comment vous faites, vous, directement? Au 04 72 38 20 23 pour réagir par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Je fais des heures sup, les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'est, effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup, d'amour. Ça sent à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, ça plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, on n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien, serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup, d'amour, d'amour. C'est la nuit, qualité de sommeil dégradée. Je sors sur le balcon, tout est englouti par l'horizon. Une sirène au loin, c'est presque demain. Il paraît que le lithium se dissout dans les étoiles. Il paraît que le soleil se lèvera un jour pour tout faire cramer. Pour de bon lance-flammes, moi, moi. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, si tu veux.
Le chanteur Raphaël pour vous accompagner en ce mercredi matin, heure sup.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec notre invité jusqu'à 11h, Rémi Houdguiry, je rappelle que vous êtes sociologue et directeur général de Sociovision, qui fait partie du groupe IFOP. Ce matin, on se demande si c'est une bonne idée de parler politique en famille ou avec ses amis, voire ses collègues, et puis comment faire, tout simplement. Je reviens sur cette fragmentation de la société que vous avez évoquée, Rémi, en début d'émission, qui pour vous n'est pas nouvelle. Si on s'arrête sur les réseaux sociaux, on la constate quand même énormément, cette fragmentation. C'est assez grave ce qu'on est en train de vivre.
Oui, oui, je pense, parce que en fait, quand on analyse un petit peu les raisons de cette fragmentation, j'ai envie de dire que si on veut résumer, il y a trois Frances. Il y a une France qui regarde plutôt vers l'avenir, c'est plutôt la France qui va bien, et voilà, elle voit l'avenir comme une série d'opportunités économiques, c'est la start-up nation, c'est toutes ces idées que voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis vous avez une deuxième France, qui est la France nostalgique, qui regarde plutôt vers le passé, qui se dit que la France d'aujourd'hui a dévié d'une trajectoire glorieuse, et plutôt a trahi son identité, et donc elle est nostalgique des années 60, 70, enfin voilà, aimerait bien revenir plutôt vers le passé. Et puis il y a une France du présent qui est la France, on parle souvent de déclassement, c'est une partie de cette France qui sent que elle est plus du tout en accord avec le monde tel qu'il évolue, et donc qui se sent de plus en plus en contradiction. Et comme je l'ai rappelé citais tout à l'heure, la période d'inflation qu'on traverse depuis maintenant plus de 2 ans, elle rajoute à ce sentiment de déclassement. Et donc c'est le présent au sens où c'est le présent des factures, c'est le présent des fins de mois, c'est le présent des arbitrages budgétaires, etc. Et donc ces trois francs sont énormément de... Enfin, vous voyez, le centre de gravité n'est pas le même, le rapport au temps n'est pas le même. Et donc, la France qui va bien dit plutôt il faut aller vers la transition écologique, il faut changer complètement nos modes de vie. La France qui se replie a plutôt, en regardant vers le passé, dit non, mais il faut d'abord régler les problèmes de sécurité, d'immigration, d'identité. Et puis, il y a la France déclassée qui, elle, dit il faut absolument régler des problèmes économiques. Donc, chacun voit midi à sa porte, pour ainsi dire. Et surtout met en priorité ce que l'autre ne met pas en priorité. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette fragmentation. Et les réseaux sociaux ne font que accentuer ça, parce que sur les réseaux sociaux, alors pas tous hein, d'ailleurs, mais un certain nombre d'acteurs essayent justement de alors on prenne encore des positions encore plus radicales, parce que sur les réseaux sociaux on a un peu le droit de tout dire. Et c'est un peu la foire à celui qui aura la punchline la plus aiguisée, le mot le plus frappant. Enfin, vous voyez,
alors que
ça rajoute.
Ouais. Non, pardon, je vous ai coupé dans votre phrase.
Mais
alors que justement, quand on est face à des vraies personnes, pas sur les réseaux sociaux, mais en vrai, avec sa famille, ses proches, ses collègues, il y a un filtre quand même. Il y a quelque chose qui va faire qu'on ne va pas s'exprimer de la même manière que sur les réseaux sociaux.
Oui, ça c'est clair.
C'est là où finalement on peut peut-être éviter parfois certains clashs, certaines tensions.
Bah, il faut être animé de bonnes intentions. Vous avez raison. Le filtre, les réseaux sociaux, c'est l'endroit où chacun peut exprimer toutes ses frustrations, ses colères. Voilà, c'est une caisse de résonance. Et dès qu'on est en face à face, en effet, le ton descend de quelques crans. Mais néanmoins, reste le sujet le plus clivant dans notre société. Et alors, Dans ces élections en particulier, un thème, nous on fait des enquêtes sur énormément de thèmes et on regarde un petit peu ce qui clive pas.
Oui.
En France aujourd'hui, le thème le plus clivant, c'est le thème de l'immigration. C'est vraiment sur celui-là où il y a vraiment des écarts entre, si vous voulez, il y a certains Français qui considèrent qu'il faut absolument fermer les frontières, que ce sujet est devenu insupportable, alors qu'à l'autre bout, vous avez l'inverse, vous avez au contraire des gens qui considèrent que il faut accueillir plus d'étrangers parce que il y a d'une part la tradition d'ouverture de la France et puis il y a simplement la logique économique. Et ce sont moi ce que je dis souvent quand je présente ces résultats, je dis attention, le dimanche, ne mettez pas à table les deux personnes dont je viens de parler, parce que ça va finir en pugilat, si vous voulez. Et souvent ce que je dis, vaut mieux, parce que on regarde un petit peu aujourd'hui des sujets consensuels, aujourd'hui par exemple le sport est un sujet consensuel, c'est-à-dire que c'est là où les gens de toute catégorie sociale, de toute opinion peuvent se retrouver. Et c'est la raison pour laquelle le paradoxe de la situation, c'est que là, les gens se préparaient à, d'une part, à l'euro, où on espère que la France ira loin, et se préparer aux Jeux Olympiques, où on espère que les performances des athlètes français seront à la hauteur. Donc c'était des moments où on se préparait à communier, à retrouver un semblant d'unité, si vous voulez, même si c'est une unité éphémère qui ne dure pas. Au moins, ça rassemble les gens, si vous voulez, les victoires sportives. Et au moment où on allait enfin aller rentrer dans ce cycle-là, est arrivée la dissolution.
L'immigration qui était d'ailleurs le thème le plus important des Français pour les élections européennes, c'est un thème qui arrivait avant l'écologie, qui était aussi un sujet très important, qui peut aussi apporter quelques tensions, Rémy Hautguiry d'ailleurs, l'écologie.
Oui, bien sûr. D'autant qu'alors là, pour le coup, la fracture dont j'ai parlé tout à l'heure entre les villes et on va dire les grandes villes, on va dire les grands centres urbains et le reste du territoire, très souvent dans les grands centres urbains, l'écologie vient en première préoccupation. Et en revanche, dès que vous sortez des grands centres urbains, l'immigration, effectivement, et les questions de sécurité, très souvent, reviennent au premier plan. Donc il y a vraiment sur ces sujets, ce sont aussi des sujets qui traduisent des différences de sociologie, en fait. Les gens ne vivent pas du tout. En fait, ce dont on s'aperçoit, ce qu'on réalise à l'occasion de ces élections, c'est à quel point, aujourd'hui, on vit sur le même territoire mais on est dans des systèmes de perception de la réalité qui n'ont plus rien à voir, d'où la difficulté de dialoguer. Encore une fois, si on veut être positif, parler politique aujourd'hui, c'est essayer de recréer du lien, en fait, recréer des zones de dialogue entre des gens qui n'ont plus du tout les mêmes systèmes de référence.
Un message de Jean reçu par mail à direct@rcf.fr. En famille, il ne faut pas parler ni de religion ni de politique. Ce sont des sujets qui fâchent depuis toujours. Vous êtes d'accord avec ça, Rémi de Guéris ? Est-ce qu'on peut être aussi binaire ?
Oui, je pense que de fait, alors surtout la politique, la religion, ça a perdu de son côté antagoniste aujourd'hui. Je pense par rapport à la politique, il y a plus d'ouverture d'esprit globalement, mais sur la politique, oui. Si vous voulez, encore une fois, tout dépend le l'angle qu'on prend. Si vous voulez, si on prend l'angle citoyen, si on se dit qu'être un bon citoyen, c'est quelqu'un qui est conscient de l'importance des enjeux politiques, etc. Ça ne fait pas de mal. En tout cas, c'est tout à fait souhaitable qu'on puisse discuter de politique en famille. Ensuite. Si on raisonne plutôt la famille, ça doit quand même rester une cellule importante de solidarité, de protection, de sécurité dans une société qui est quand même de plus en plus imprévisible, de plus en plus compliquée. Là, j'ai envie de dire, oubliez la politique, parce que ça sert à rien de rajouter ce conflit-là à un moment où on a besoin peut-être pour les enfants de faire des choix professionnels qui sont pas simples, pour la famille de faire... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de réponse...
Toute faite, oui, il n'y a pas de réponse, ouais.
Il n'y a pas de réponse, voilà, qui puisse falloir pour tout le monde. En revanche, je pense que le dialogue est important. Voilà, il faut se parler. En revanche, ça, je pense qu'il faut se parler aujourd'hui parce que avec la montée en puissance des technologies comme le smartphone, les tablettes, les écrans, d'une manière générale, nous, ce qu'on observe, c'est quand même que on avait d'ailleurs travaillé sur ce sujet des familles où les personnes cohabitent mais sans se parler. Il y a des familles en France aujourd'hui où au petit déjeuner, au déjeuner quand il y en a et au dîner, les gens sont derrière leurs écrans. Se parle très très peu, si vous voulez. Ça, c'est un vrai danger, parce que là, c'est pas seulement qu'on parle pas politique, c'est qu'on ne parle pas du tout. Donc l'enjeu, c'est avant même de faire réintroduire la politique dans ces familles, c'est réintroduire le dialogue.
Ouais. Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi des familles complètement cassées à cause de sujets comme ça qui fâche. Alors, je pense que ça doit être rare, Rémi de Guéris, je ne sais pas si vous avez pu étudier ça. Mais comment on peut en arriver là? D'ailleurs, on avait une auditrice qui se demandait tout à l'heure, qui nous disait, mais voilà, oui, il peut y avoir des clashs à cause de la politique, à cause de certains sujets un peu plus compliqués, mais comment peut-on arriver à une rupture totale de la parole en famille?
Ça vient vous parlez là de la politique, hein, on est d'accord.
Oui, entre autres, enfin ça peut être lié à d'autres sujets.
La famille, c'est toujours un équilibre compliqué parce que c'est contrairement aux amis, en principe on se choisit parce qu'il y a des affinités. Dans la famille, on ne se choisit pas en quelque sorte. Donc à partir de là, tout ce qui va c'est un fragile équilibre, alors qu'il est d'autant plus solide qu'il y a du dialogue, qu'il y a de la reconnaissance, de l'autorité, si vous voulez, mais qui peut très vite dévier, qui peut très vite être bousculé à partir du moment où s'introduisent des désaccords.
Oui.
Je pense que la famille a un côté tellement sacré que la réaction en retour est extrêmement violente.
On va continuer d'en parler dans un instant. Rémi Guéry, avec grand plaisir, avec également vos appels, vos témoignages, vos réactions au 04 72 38 20 23. Dites-nous si vous arrivez facilement à parler politique ou peut-être de sujets un peu plus qui fâchent en famille, avec vos proches, avec vos collègues, vos amis. Dites-nous comment vous faites d'ailleurs pour que tout se passe bien. 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense, donc j'agis. Est-ce une bonne idée de parler politique avec ses amis ou sa famille? Comment vous faites-vous directement? 04 72 38 20 23 pour participer ou directement avec vos mails à l'adresse direct@rcf.fr. Sympathie, c'était Declan McKenna.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
En compagnie de notre invité, le sociologue Rémi Oudguéry, vous êtes également directeur général de Sociovision, qui fait partie du groupe IFOP. Bonjour Céline.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, donc j'étais en train d'écouter votre émission que je trouve très intéressante. Et donc voilà, je voulais juste donner un petit peu mon expérience. Donc moi, je vais avoir 47 ans.
Oui.
Et j'ai grandi dans une famille où il y avait des religions différentes, voilà, où il y avait des idées politiques très différentes et où dans les repas de famille, c'était en brouhaha total. Mais en fait, tout le monde parlait. Tout le monde parlait et tout le monde disait ses idées et en fait tout le monde disait sa vérité et quelque part en fait on se parlait et c'est ça qui est important en fait. La politique, c'est de la discussion, c'est de dire ce qu'on pense, que l'autre personne en face elle dise aussi ce qu'elle pense et en fait on fait avancer le débat. Et c'est très important en fait. Et comme je dis, en fait, chacun a sa vérité. On vit pas les choses de la même façon, mais en fait, c'est en parlant qu'on avance en fait. Donc ça, c'est très important. Voilà.
Oui.
Je voulais juste expliquer, et je voulais expliquer aussi que même si les repas étaient très animés,
oui,
il n'y avait pas d'animosité.
Mmh.
Voilà. Donc on peut se parler. En plus, on est du sud, hein.
Ah oui.
Donc voilà, vous allez peut-être entendre ma voix.
Ah non,
donc,
pas trop.
Non. Pas du tout.
Non.
Donc ça parlait fort, mais en fait, on se parlait. Et c'est ça qui est important, en fait. Je pense que maintenant, on est dans une situation où on a presque plus envie de se parler parce qu'en fait, on va tout de suite au clash. Alors qu'en fait, il faut amener les idées. Si on n'amène pas les idées, si on se confronte pas, en fait, si on confronte pas les idées, on peut pas avancer, en fait.
Mais parce que Céline, vous avez grandi dans une famille où finalement, alors je sais pas comment interpréter ça. Hein, je veux pas faire du tout mon psychologue de bas étage, c'est pas l'objectif. Mais dans une famille où on vous a laissé cette possibilité de vous exprimer, de débattre également sans juger.
Alors il y avait forcément du jugement, mais c'est vrai que l'avantage, en fait, moi je voulais juste expliquer à des gens que voilà, nous on était, il y avait des religions différentes,
oui,
hein, donc des idées de pensée complètement différentes et des idées politiques, vous voyez, il y en avait qui étaient à l'extrême gauche, il y en avait qui étaient à l'extrême droite, enfin au milieu, enfin il y avait, et donc je trouve que c'était, c'est vrai que moi j'ai eu cet avantage-là de pouvoir avoir des grandes familles et dire que c'était possible. C'est-à-dire que les personnes étaient ensemble réunies. Alors, je veux pas dire que c'était tout le temps, c'est possible tout le temps, mais en tout cas, les familles étaient réunies et il y avait ces discussions-là. Et en fait, on se tapait pas dessus. Vous voyez, ça discutait fort de temps en temps, mais ça discutait. Et finalement, en fait, je pense que tout le monde, quand il rentrait chez lui, même si peut-être il restait dans ses idées, il avait avancer sur quelque chose, en tout cas.
Merci beaucoup, Céline, pour votre appel au 04 72 38 20 23. C'est très pertinent, Rémi Oudguéry, hein, ce qu'on vient d'entendre de la part de Céline. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit sur le fait de dire, ben oui, il faut réussir à parler quand même en famille?
Oui, alors c'est vrai que c'est presque la famille idéale parce que c'est la démocratie en fait. Hein. En effet, chacun a sa vérité. Moi, ça m'a fait penser à la pièce de Pirandello où chacun, sur le même événement, dit exactement le contraire, si vous voulez. Et la démocratie, c'est ça. Chacun a son avis, mais chacun se respecte. Et donc, il peut y avoir de l'intensité, il peut y avoir du débat, etc. Mais à la fin des fins, chacun se respecte et chacun, en quittant l'autre, se dit, ben voilà, bon, ben il a exprimé ses idées, il a écouté celles de l'autre, et puis, ben voilà, c'est comme ça, on est différent. Donc, c'est l'apprentissage de la différence qui, pour moi, est vraiment l'apprentissage de la vie démocratique. Et alors, peut-être pour expliquer, si on essaye de, alors, sans généraliser ce cas-là, mais pourquoi aujourd'hui c'est devenu plus compliqué, à l'évidence, il me semble que, L'une des raisons principales, c'est qu'il y a encore une vingtaine d'années, on va dire au début du 21e siècle, il y avait encore l'idée qu'il y avait des chemins possibles, si vous voulez. Il y avait, l'avenir était relativement prévisible. On pouvait se dire que demain, on avancerait dans la vie, on pourrait gagner un peu plus, on pourrait peut-être qu'avec le développement d'Internet, les gens allaient se parler davantage, qu'il y aurait plus de démocratie dans le monde. Vous voyez, il y avait, quand on est entré dans le 21e siècle, il y avait pas mal d'espérance, de sorte que, on avait tous des visions différentes, mais c'était pas aussi conflictuel aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en un quart de siècle? C'est que cette vision de l'avenir, de voie ouverte, est complètement dissipée. C'est-à-dire que les démocraties, c'est pas tellement la tendance aujourd'hui, on voit plutôt le retour des régimes autoritaires. On voit qu'Internet n'a absolument pas rapproché les gens, au contraire, à travers les réseaux sociaux, n'ont fait que polariser les positions et donner la place grandissante à des extrêmes et donc à la radicalisation du discours. La crise écologique qui à l'époque était déjà visible, si vous voulez, notamment les lanceurs d'alerte écologistes nous alertaient là-dessus, mais on se disait ça sera les prochaines générations qui seront concernées par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça nous concerne nous et que ça risque de, dans les quelques années, dans les décennies à venir, complètement changer la donne sur notre façon de vivre, sur nos façons de consommer, etc. Si je rajoute à ça l'émergence de l'intelligence artificielle qui fait planer une menace à moyen long terme sur énormément d'emplois, et sans rajouter l'épisode du 11 septembre 2001 qui a ouvert la voie au terrorisme, je veux dire, la situation est absolument pas la même. C'est-à-dire que l'espérance qu'il pouvait y avoir au début de ce siècle, elle s'est complètement évaporée sur tous ces sujets-là. Et donc, elle a favorisé des positions extrêmes, parce que les gens ayant peur, ils se radicalisent dans leur position, et ça donne le schéma actuel de que chacun se réfugie sur son quant à soi, et ça explique pourquoi les discussions en famille ne sont pas impossibles, mais sont beaucoup plus compliquées qu'il y a une vingtaine d'années.
Un message de Véronique, un peu dans le même sens d'ailleurs que Céline qu'on a entendu, elle nous dit « Oui, nous parlons politique en famille, c'est parfois tendu, mais on s'écoute, on se respecte, et chacun fait un pas vers l'autre, et pourtant les votes sont très différent de Reconquête au PS, au Vert, en passant par RN ou Renaissance. La famille et l'Église sont d'ailleurs des lieux d'un dialogue possible et si on ne fait pas cet effort, on continuera à s'affronter bloc contre bloc sans se comprendre. La recherche du bien commun et d'un apaisement passe par là. Et alors elle nous dit, Véronique, les catholiques ont un rôle essentiel à jouer, osons dialoguer. Véronique, évidemment, elle témoigne au nom de sa foi sur une radio chrétienne, Rémi Oudguiri. Je trouve ça, quand elle dit, Véronique, si on fait pas cet effort, on continuera à s'affronter bloc contre bloc. Est-ce que ça vous parle, ça?
Bien sûr, c'est la sagesse même, c'est-à-dire que, en fait, il y a une chose qui me frappe, moi, dans ce qui se passe actuellement, c'est le renouvellement générationnel. C'est-à-dire que, c'est très visible, si vous voulez, dans ce qui se passe chez les Républicains. On s'aperçoit qu'il y a toute une génération qui a aujourd'hui, on va dire 50, 60 et plus, qui a grandi avec l'idée que le Rassemblement National et ce qui lui a précédé, c'est un peu le diable, si vous voulez, c'est la ligne rouge. Or, les nouvelles générations de sensibilité, de droite, etc., ont beaucoup moins cet a priori, si vous voulez. Elles sont plus... Elles n'ont pas cette même ligne rouge. De sorte que il y a aussi, dans la situation actuelle, une opposition de génération. Et il faudrait que les générations précédentes comprennent que le champ politique a changé, tout simplement. Et donc, fassent l'effort de tenir compte du fait qu'aujourd'hui, le Rassemblement National n'est plus le petit parti extrémiste qu'il a été à une époque, mais c'est agrandi, a mis de l'eau dans son vin et a réussi à convaincre une partie non négligeable de la population. Donc je pense que, de toute façon, si on ne s'écoute pas les uns les autres dans ce qu'on a de différent, dans nos visions qui sont différentes, on n'y arrivera pas. Et moi je suis assez frappé, en fait, du fait qu'il y a les slogans d'un côté, qui tendent à la radicalisation, parce qu'un slogan, c'est par définition simple, simpliste. Et puis, quand vous regardez les sujets les uns après les autres, quand vous rentrez dans le détail des sujets, il y a un socle quand même qu'on peut essayer de retrouver. Vous voyez, mais pour ça, il faut s'écouter, il faut prendre le temps, et puis il faut être un peu honnête intellectuellement en se disant oui, bon, bah, peut-être sur ça vous avez raison, c'est pas aussi binaire que ça. C'est, oui. Là, on est en train de vivre là. Il y a un livre d'une de vos collègues journalistes qui s'appelle L'art de tromper. Que je trouve...
C'est Anne Toulouse qui a écrit ce livre.
Voilà. Anne Toulouse, je trouve que c'est bien trouvé, c'est très juste, c'est-à-dire que Trump, depuis son émergence en 2016 sur la scène internationale, a légitimé cette espèce de raisonnement binaire où on avance en caricaturant les positions, parfois de façon très consciente, en poussant le mensonge, en racontant des mensonges. Et c'est de ça qu'il faut sortir absolument, parce que c'est ça qui empêche en réalité de s'entendre, et c'est ça qui empêche les gens de dialoguer, de retrouver une forme de paix et de dialogue.
Jocelyne, bonjour.
Oui, bonjour et merci. Alors, je pense que c'est très important de discuter à table entre amis de la politique, ne serait-ce que pour évoluer et savoir leur nom. Parce que si on sort en dehors de la France, entre amis, qu'on dit, c'est qui déjà votre ministre de tel ? Qu'est-ce que ça fait honte de ne pas savoir ? Je m'explique. Mon fils, il est dans la banque. Il ne sait même pas qui est ministre de budget. Et grâce à moi, j'ai dit, on devait savoir les trois derniers. Ma fille, elle est au tribunal. J'ai dit, moi, je sais les trois derniers parce que je m'intéresse. Moi, je suis sportif. Je sais les trois derniers ministres du sport. C'est rien que ça. Des fois, on se fâche parce qu'on n'est jamais content. Mmh. Mais c'est très important de discuter. Ça évolue, ne serait-ce que tenir le nom en dehors de la France. Pour quoi ? Pour défendre la France. Parce que c'est nos dirigeants, même si on n'est pas d'accord, et puis même si on est apolitique, on a toujours de quoi à dire, à donner des idées entre nous déjà, en partant de parler de politique.
Ce que j'entends à travers votre témoignage, Jocelyne, c'est que finalement, pour réussir à discuter sans se fâcher, il faut avoir un petit peu de culture politique notamment.
C'est parce que pour moi, personnellement, les politiques, c'est comme si on gouvernait en famille, hein.
Oui.
Après, le nom de notre dirigeant, après, c'est important. Après, on n'est pas à être d'accord, mais il faut savoir le pourquoi, le comment, et ça évolue tout le monde sans se fâcher. Moi, je ne me fâche pas. Il y en a qui se fâchent parce qu'on n'est pas de même avis, parce qu'on n'est pas tel ou tel. C'est des gens, et Dieu sait, c'est pas facile.
Merci beaucoup, Jocelyne, pour vos témoignages au 04 72 38 20 23. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémy Hudguiry ? Est-ce que c'est une condition pour débattre, d'avoir un minimum de culture politique ? Alors, ça ne veut absolument rien dire, puisqu'il n'y a absolument rien pour mesurer. Mais est-ce que la culture permet finalement de parler sereinement sans s'écharper ?
Oui, alors je dirais de la formation, tout simplement.
Oui, c'est-à-dire ça sert à argumenter.
Ben, ça sert aussi à être modéré probablement, parce que si vous vous informez, vous avez des arguments, et donc il faut un minimum de temps pour les exposer, pour les discuter. Je pense que et de fait, c'est vrai que, alors on dit souvent les Français sont, enfin moi j'entends souvent dire que les Français sont passionnés par la politique. Rien n'est plus faux que ça. C'est-à-dire que oui, dans certains milieux, notamment dans certains milieux diplômés, etc., on parle beaucoup de politique, mais globalement à l'échelle du pays, moi quand je regarde, par exemple, on a fait une enquête il y a quelques mois sur les sujets de discussion où les gens sont à l'aise pour parler, et on s'aperçoit que si vous prenez les 10 premiers sujets de discussion chez les hommes ou les 10 chez les femmes, à aucun moment la politique n'apparaît. Les hommes, ils préfèrent parler de sport, de voyage, de cinéma, d'actualité, de travail, etc. Les femmes, de vie quotidienne, de santé, bien-être, de cuisine, d'actualité aussi, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la politique est rarement... Donc il y a quand même, dans la radicalisation des positions, le paradoxe, c'est que souvent, elles ne sont pas informées. C'est-à-dire que c'est une... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus un réflexe, finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, de peur par rapport à l'avenir, et donc on se rattache à des positions parce qu'on pense que c'est une façon de se défendre. Et il me semble que si on avait un peu plus d'informations sur la politique, peut-être que on aurait des dialogues plus intéressants. Après, je dois avouer que l'évolution aussi des professionnels de la politique elle donne pas nécessairement envie.
Non, ah bah c'est quand même, pardon, alors, mon commentaire n'a absolument aucun intérêt, mais c'est ridicule. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était des chamailleries de cours de récréation. C'est quand même hallucinant de voir ça. Ça donne, mais ça donne une image, mais tellement terrible de la politique. Alors que sur le fond, il y a des idées qui sont absolument très intéressantes, qui sont nécessaires pour construire peut-être la société de demain. Mais quand on voit la forme, c'est vraiment triste.
Oui, plus que la forme, et dans tous les camps, que ce soit à gauche, à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, avec cette image de ce président des Républicains qui s'enferme à clé dans son bureau, ben là, effectivement, là, on peut le dire sans jugement de valeur, on est vraiment face au ridicule, en fait, le ridicule, et on n'est pas à la hauteur, si vous voulez, du moment. Donc oui, je pense que les politiques eux-mêmes ont une part de responsabilité dans dans la désaffection des Français pour la politique. Donc il n'y a pas seulement une société fragmentée, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a pas seulement une crise de l'avenir, il y a aussi des professionnels de la politique qui, pour certains, sont vraiment pas à la hauteur de ce qui se passe.
Attendez, je cherche mes mots en même temps parce que c'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce que tout ce qui s'est passé sur la forme et non pas sur le fond ces derniers jours, ça crée là aussi une vraie tension entre les Français, parce que on a l'impression qu'à toutes les 10 minutes, il y avait une nouvelle actualité sur ce sujet. C'est tellement triste que ça crée de la tension. J'ai très mal posé ma question, hein, Rémy Guéry.
Non, mais alors moi je dirais que oui, ce qui crée de la tension probablement, c'est qu'on a le sentiment que un certain nombre de gestes qui ont eu lieu, de décisions qui ont eu lieu depuis une dizaine de jours maintenant, sont surtout des décisions individualistes, égocentriques, voire narcissiques. Hein. De la décision de la dissolution d'abord, parce qu'on a le sentiment que ça a été fait de façon très individuelle et solitaire, ou en tout cas vraiment sans avec peu de consultations.
Oui, mais très stratégique.
Oui. Oui, mais très individualiste quand même, si vous voulez. C'est, je veux dire, justement, on a rappelé dans quelques semaines, on accueille les Jeux Olympiques, le monde entier va regarder la France. Enfin, je veux dire, on n'avait pas besoin d'un psychodrame en même temps, si vous voulez. Vous voyez, donc de ce point de vue-là, il me semble que c'est quand même une décision très individualiste. Je viens de rappeler la posture d'Éric Ciotti qui s'enferme dans son bureau. Là aussi, c'est hyper individualiste, et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de comportements, à gauche, la France insoumise qui de façon très sectaire, sous l'influence d'un seul homme qui exclut un certain nombre de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce qui rajoute, si vous voulez, à la difficulté de s'entendre et de parler sereinement de politique, c'est que les acteurs du politique sont beaucoup dans des comportements très individualistes. Et donc, on donne le sentiment que finalement, la politique, c'est quelque chose, c'est pas du tout quelque chose d'intérêt général.
Je rappelle que vous êtes le directeur général de Sociovision. Vous essayez de comprendre un peu les mouvements de société, voire de les anticiper. Est-ce que vous aviez anticipé une telle crise politique en France ?
Alors, on n'avait pas... Non, alors, le scénario de la dissolution, évidemment pas. En revanche, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on voit chaque année un peu plus la dislocation, ce que notre collègue Jérôme Fourquet à l'IFOP a appelé l'archipélisation, si vous voulez. Ça, on le voit très, 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 très bien. Et donc, nous, on travaille beaucoup en ce moment sur, au fond, qu'est-ce qui permettrait de recréer du lien. C'est-à-dire parce qu'on voit bien que de plus en plus les positions se radicalisent, de plus en plus les visions se différencient, enfin se polarisent. Et la grande question que l'on se pose, c'est mais comment on va faire pour retrouver un socle commun? Bon, pour moi, c'est la vraie question des prochaines années, des prochaines décennies. Pour être très franc, c'est pas une question facile. En fait, si vous analysez la situation actuelle, pour moi, j'y vois simplement le déploiement ultime de l'individualisme, en fait. Hein. C'est-à-dire que pourquoi on n'arrive pas à s'entendre, c'est que on vit dans un pays où chacun regarde d'abord et avant tout ses propres intérêts ou l'intérêt de sa famille ou de sa communauté, vous voyez. Et il n'y a plus du tout le sens du lien commun, c'est ça, ce qui pourrait nous relier, comme une religion, comme une philosophie, comme une éthique, si vous voulez. C'est ça qui mais le problème, c'est comment on fait à l'ère de l'individu roi, pour créer ce. Encore une fois, il y a 20 ans, on pensait qu'Internet, il y avait la fameuse utopie du village global, selon l'expression de Marshall McLuhan. Voilà, on allait tous vivre dans un village parce qu'on serait tous rapprochés les uns des autres par la technologie. Force est de constater que ce scénario, non seulement n'est pas arrivé, mais on a vu l'inverse.
Eh ben, on va essayer d'écrire de nouveaux scénarios. Merci beaucoup, Rémy Guéry. On prendra des nouvelles, évidemment. Dans quelques années, on vous réinvitera, car c'était absolument passionnant de vous entendre. Rémy Guéry, je rappelle que vous êtes sociologue et directeur général de Sociovision du groupe IFOP, à retrouver sur le site sociovision.com. 10h54, on peut dire que la politique fait partie du patrimoine français. Nous, on va plutôt s'intéresser au patrimoine écrit. Et oui, on retrouve Philomène Villard, notre chroniqueuse de la sauvegarde de l'art français. Bonjour Philomène.
Bonjour Melchior.
Vous nous parlez ce matin d'un pan du patrimoine dont on parle rarement, celui du patrimoine écrit.
Et oui, en effet Melchior, parce que quand je vous parle de restauration de patrimoine, vous pensez certainement plutôt vieilles pierres ou tableaux de musée. Mais les livres et les manuscrits anciens constituent aussi un pan de patrimoine mobilier à protéger. Et c'est pour ça que la sauvegarde de l'art français a décidé de s'allier avec la Relure du Limousin, qui est un atelier spécialisé dans la restauration de documents anciens, pour créer un prix en mécénat de compétences. Et donc chaque année, la Relure offre ainsi son expertise à un lauréat pour restaurer un document ancien.
Est-ce que ce prix existe depuis longtemps, Philomène ?
Non, pas du tout, puisque c'est le dernier né des prix de la sauvegarde. On l'a lancé l'année dernière. Alors, lors de cette première édition, en 2023, les projets candidats avaient d'ailleurs été très variés, pour notre plus grand bonheur. On a eu, donc évidemment, plusieurs manuscrits religieux, et ça va être le moment d'étoffer un peu notre vocabulaire ensemble, Melchior.
Ah, avec plaisir.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un antiphonaire ?
Antiphonaire, moi, ça me fait penser à phone, à un téléphone.
Alors, pas tout à fait. C'est un recueil de chants liturgiques qui datait, là, ici, en l'occurrence, de 1755. Et un graduel, à votre avis ?
Un graduel ? Alors, je connais pas du tout. Je sais pas, Philomène.
C'est un recueil manuscrit de chants grégoriens qui, cette fois, datait du 15e siècle et en vieux flamand, pour corser un petit peu l'exercice. Et alors, un autre trésor qui nous a été présenté, c'était une Bible polyglotte en 9 langues, dont l'éthiopien, qui était daté du XVIIe siècle et qui est d'ailleurs la première Bible connue à présenter autant de langues. Et puis, on a eu aussi des documents civils avec des atlas ou des cadastres de plusieurs cimetières parisiens ou, peut-être plus palpitant, les récits de voyage d'un explorateur irlandais au XVIe siècle. Mais c'est finalement le candidat le plus ancien, c'est-à-dire un bréviaire clunisien du XIIIe siècle, qui a remporté le prix. Et c'est une vraie rareté, puisqu'il s'agit d'un des rares témoins du Moyen-Âge occidental, conservé à l'Institut catholique de Paris. Donc sa restauration est désormais achevée, et il va bientôt pouvoir retrouver l'Institut catholique de Paris pour être présenté au public et aux chercheurs.
Quelles sont les étapes de restauration d'un document ancien ?
Alors, la restauration se fait en trois parties. D'abord, il y a le corps de l'ouvrage, c'est-à-dire l'intérieur. Là, il faut en général commencer par nettoyer les feuillets au pinceau, avec la précaution, évidemment, que vous pouvez imaginer quand les ouvrages ont presque 800 ans. Ensuite, on vient combler les lacunes avec du papier japonais et éventuellement faire à plat une numérisation qui permettra de consulter l'ouvrage sans l'abîmer, ce qui a été le cas là pour notre bréviaire. Puis ensuite vient le travail sur la relure. Là, on vient dépoussiérer, remplacer ou rénover les coutures qui tiennent les feuillets ensemble, avec tout un travail très intéressant de recherche historique en amont pour les refaire à l'identique et puis pour combler les lacunes avec du cuir adapté. Et enfin, il y a le conditionnement avec la création d'une boîte sur mesure, généralement en toile, qui sert notamment à protéger la coiffe de l'ouvrage. Et ce sera mon dernier mot de vocabulaire, je vous rassure. La coiffe, ça correspond à la partie supérieure de la relure qui risque de frotter quand on le sort de l'étagère, d'où la boîte donc. Bref, dans le cas de notre bréviaire, tout ça a pris pas moins de 250 heures de travail.
Et dernière question, pour le prix 2024, c'est en ce moment qu'on peut candidater, Philomène ?
Absolument, Melchior. L'appel à candidature pour le prix 2024 est ouvert jusqu'au 15 août. Alors, si vous êtes une collectivité, une institution, un musée ou toute autre personne publique avec un projet de restauration de patrimoine écrit, la sauvegarde de l'art français attend vos candidatures avec impatience.
Merci beaucoup, Philomène Villard, de la sauvegarde de l'art français, dont on peut retrouver beaucoup plus d'informations sur votre site internet à retrouver sur la page de cette chronique Sacré Patrimoine. Merci à toutes et tous pour vos appels ce matin dans Je pense donc j'agis. Merci à Nicolas, également à Pierre, à la réalisation, j'aurais pu parler, et même à Clément. On vous se retrouve demain avec grand plaisir de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis, à la veille de la fête de la musique. On parlera du solfège dans l'apprentissage de la musique. Est-ce que c'est devenu le vilain petit canard? Vous pouvez déjà témoigner dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis ou par mail à direct@rcf.fr. Bonne journée à tous.